presque exclusivement avec Parviz à lire de la poésie. Le grand Parviz, l'ami qui écoutait avec patience tout ce que je ne disais pas. Excepté Parviz, il ne me restait plus de proches à Téhéran. Faugier avait fini par rentrer, physiquement détruit, moralement perdu dans son objet d'étude, dans un rêve opiacé. Il me dit adieu comme s'il partait pour l'autre monde, gravement, avec une sobre gravité assez effrayante chez ce dandy autrefois exubérant. Je revoyais l'homme d'Istanbul, le Gavroche séducteur, le prince des nuits d'Istanbul et de Téhéran, et il s'était dissous, avait presque disparu. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Nous en avons discuté à plusieurs reprises avec Sarah, et une seule chose est plus ou moins certaine. Marc Faugier, malgré toutes ses compétences, toutes ses publications, n'appartient plus au monde universitaire. Même Google n'a plus de ses nouvelles. De nouveaux chercheurs étaient arrivés, entre autres un compatriote, un Autrichien élève de Bert Fragner, le directeur de l'Institut d'études iraniennes de l'Académie des sciences de Vienne, cette même Académie des sciences qu'avait fondée en son temps le cher Amar Purkshall. Ce compatriote historien n'était pas le mauvais bougre, il n'avait qu'un seul défaut, c'était de parler en marchant. Il arpentait les couloirs en réfléchissant à voix basse, des heures durant, des kilomètres de couloirs arpentés. Et cette monodie, aussi savante qu'inintelligible, me tapait farouchement sur les nerfs. Quand il ne déambulait pas, il se lançait dans d'interminables parties de Go, avec un autre nouveau venu, norvégien celui-ci. Un norvégien exotique qui jouait de la guitare, du flamenco, à un si haut niveau qu'il participait chaque année à un festival à Séville. Tout ce que le monde pouvait offrir comme rencontre saugrenue. Un Autrichien philatéliste passionné par l'histoire des timbres iraniens jouant au Go avec un Norvégien guitariste gitan versé dans l'étude de l'administration pétrolière. J'ai vécu ces dernières semaines chez Parviz, où, en dehors d'une ou deux mondanités, comme cette invitation chez le conseiller culturel mélomane, reclus. Entouré par les objets que Sarah n'avait pas pu emporter dans son départ précipité vers Paris. Beaucoup de livres, le tapis de prière du Khorasan, une magnifique couleur mauve que j'ai toujours auprès de mon lit, un samovar électrique argenté, une collection de copies de miniatures anciennes. Parmi les livres, les œuvres d'Anne-Marie Schwarzenbach, bien sûr, et notamment La Vallée Heureuse et La Mort en Perse, dans lesquelles la Suissesse décrit la vallée du Lahr, au pied du mont Damavand. Nous avions projeté de nous y rendre avec Sarah, dans cette haute vallée aride où s'écoulent les eaux du plus haut sommet d'Iran. Vallée où le comte de Gobineau lui aussi avait planté sa tente 150 ans plus tôt. Le majestueux cône blanchi de neige, strié de basalte en été. L'image, avec le mont Fuji ou le Kilimandjaro de la montagne parfaite, se dressant solitaire au milieu du ciel, dépassant du haut de ses 5600 mètres les pics environnants. Il y avait aussi un volumineux livre d'images autour de la vie d'Anne-Marie. De nombreux clichés qu'elle avait pris elle-même au cours de ses voyages, et des portraits réalisés par d'autres, notamment son mari, le secrétaire d'ambassade Clarac. Sur l'un d'entre eux, on la voit à demi nue, les épaules étroites, les cheveux courts, l'eau de la rivière jusqu'aux genoux, les bras le long du corps vêtus seulement d'un short noir. La nudité de sa poitrine, la position de ses mains ballantes le long de ses cuisses et son visage surpris lui donnent un air fragile, d'une inexpressivité triste ou vulnérable, dans le paysage grandiose de la vallée d'altitude bordée de joncs, d'épineux, et surplombée par les pentes sèches et rocheuses des montagnes. J'ai passé des soirs entiers de solitude à feuilleter ce livre de photographie dans ma chambre, et regretté de ne pas posséder d'images de Sarah, d'albums à parcourir pour me retrouver en sa compagnie. Je me rattrapais avec Anne-Marie Schwarzenbach,